I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le couvre-feu s'apprête à être repoussé jusqu'à 23h et vous ne savez que faire de toutes ces libertés individuelles. On a des suggestions pour vous. Détendez-vous, vous écoutez le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous le chip!
Bonjour, je suis Kevin Donat et je suis ravi d'hoster cet épisode. Je suis comme toujours sublimé par mes partenaires de crime, mes suspects habituels, mes menaces pour la société, Mélanie Wonga.
Bonjour Kevin.
François Hollac.
Salut Kevin, j'adore ton intro.
Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une invitée 5 étoiles, Madame Dolores Bacchella. Comment ça va Dolores?
Eh ben, ça va très bien, merci.
Cool. Alors, à l'heure où on enregistre, on a déjà sorti 3 épisodes. On est désormais disponible sur YouTube. Abonnez-vous, likez, activez la cloche pour ne rien manquer, ça c'est la base. Moi j'ai vu les 3 premiers épisodes et j'ai un truc à dire, je me tiens n'importe comment et je parle beaucoup trop avec les mains, tout le temps comme ça, gigoter
tout. C'est vrai que t'as ce truc où tu fiches tes mains comme ça, comme des griffes.
C'est insupportable. Question pour vous, est-ce qu'on vous a fait des retours sur vous depuis qu'on est sur YouTube, sur vos tics, sur vos façons de vous tenir, votre posture, vos trucs comme ça?
Moi on m'a dit que je regardais trop mon téléphone, donc maintenant je vais fixer.
Ok, très bien.
Du coup, tu travailles ton regard caméra.
Et toi, François?
Non.
Non, je suis parfait, beau gosse.
Non. Enfin, non, je bouge beaucoup la tête, un peu comme les Japonais.
Tu parles avec les mains aussi, François.
Ouais, tu parles aussi avec les mains.
Ouais, c'est vrai. Et puis, je bouge beaucoup la tête comme ça, je vais faire des trucs comme ça, comme si je.
Mais ça, c'est les cheveux, non?
Peut-être, je sais pas.
Non, là, moi, j'ai enlevé l'oreiller, le coussin derrière moi, parce que j'avais tendance, tu vois, vraiment, je finis comme
dedans,
ça. Donc, du coup, là, j'ai vraiment le dos collé, ça, je vais être comme au collège.
C'est bien.
Autre chose à ajouter sur le fait d'être sur YouTube?
Bonjour Dolores, merci d'être venue.
Dolores. YouTube,
merci de m'avoir invitée. Je glousse déjà depuis, c'est beaucoup trop. J'espère qu'on ne va pas rigoler toute l'émission, on est là pour parler de vrais sujets.
On est là pour rigoler aussi.
Faut rigoler un peu quand même.
Dans la détente.
C'est vrai. Merci en tout cas.
Bah écoute, aujourd'hui on avait envie de parler de musique et il y a un article qui est paru dans Libé fin mai qui a retenu notre attention, mon attention, piqué notre curiosité, un article qui établit une filiation entre les tubes de la pop urbaine, d'Aya Nakamura à Taiki, et qui met en avant un genre sous-coté, sous-estimé mais surexploité, le zouk. Ouais. Cet article, donc c'est toi qui l'as signé. On va en parler en long, en large, en travers, mais avant ça on a une annonce à faire. Le Trashico est de retour pour de bon. Donc notre rubrique culte, vous avez tant manqué parce que voilà, on a entendu les réclamations, les commentaires, c'est où le Trashico, j'aime bien le Trashico, qu'est-ce qui se passe avec le Trashico? Aujourd'hui c'est Mélanie qui s'y colle.
Ouais, c'est
moi. Tu vas nous parler d'un mot qui fait débat.
D'un mot qui fait débat. Et ce mot, c'est le mot
wok.
Wok.
Wok. Est-ce qu'on parle des fameux légumes sautés thaïlandais?
Oui, tout à fait, François.
C'était la blague du jour.
Woke, c'est ce mot qu'aujourd'hui, en 2021, on entend partout, hein, parce que...
Le wokistan.
Le wokistan, le wokisme, c'est aujourd'hui en France, c'est le mot qui corrompt un peu nos débats politiques.
Le wokanda.
nos universités, même, nos enfants, et même les animaux de compagnie. Enfin, en fait, tout le monde est atteint de ce virus, du wokisme. Et donc, moi, j'aimerais en parler parce que je trouve que c'est un bon trash ou iconique. Parce que aujourd'hui, c'est un mot où la droite en fait des gorges chaudes. Il y a, des couvertures de magazines, il y a vraiment des éditos brûlants parce que les faits sont clairs. Le mouvement woke, c'est une idéologie, c'est une bien-pensance et surtout c'est une menace. C'est quelque chose qui menace le débat français. Ouais. Donc parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le wokisme, on nous oblige à être gentils avec les minorités, les LGBT, même les femmes. Enfin, il y a vraiment un truc là, parce que la wokeness, en fait, c'est un mouvement qui force les privilégiés à se rendre compte que ils sont privilégiés non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que ils seraient nés dans une certaine catégorie. Et ça, c'est scandaleux en fait de critiquer ça.
Comment tu définirais genre wokeness, woke? Parce que
alors, bah, c'est ça, c'est intéressant. On va revenir à la base. Woke, à la base, c'est
woke.
Aux origines, ça vient évidemment, bien évidemment, comme beaucoup de choses, de la black culture. Donc, c'est une chanson, effectivement, d'Erykah Badu, qui s'appelle Master Teacher, dans laquelle elle dit, je sens que je vais avoir un mauvais accent, mais je vous le dis quand même, « Even though you go through struggle and strife to keep a healthy life, I stay woke. » Donc, vraiment, c'est vraiment parti de
ten ce... sur ten.
De ce truc, merci. de ce truc de dire « I stay woke ». Donc je reste éveillée, je reste l'œil ouvert. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été repris derrière par la black culture en disant, en fait, je suis woke, je sais très bien que il y a des violences qui sont commises envers les personnes noires et racisées et envers les minorités. Donc ça, c'est la base. À partir de là, c'est arrivé sur Internet, plus ou moins, c'est arrivé dans le langage Internet. Et après, c'est arrivé en France. Et comme beaucoup de concepts qui arrivent en France, à partir de ce moment-là, c'est fini, quoi. C'est vraiment, on se dit, en fait, même nous, c'était une blague pour nous, bah, en fait, on va arrêter d'utiliser ce mot parce que c'est vraiment le malaise, quoi. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, vous utilisez le mot woke sérieusement?
Non, moi, je pense que je l'utilisais peut-être en 2014, 2015, 2016, de façon un peu pseudo-ironique et voilà, mais... En fait, j'allais dire justement, j'allais employer une expression un peu malaisante et problématique, mais j'allais dire que parfois ces expressions qui partent des États-Unis et qui arrivent en France sont tellement déformées qu'on dirait le téléphone arabe. Mais je crois que c'est cancel ça aussi comme
expression.
Non, on
dit plus téléphone arabe, Kevin, c'est fini. Maintenant, on dit Gartikphone comme le jeu. Tu sais, il y a un jeu. Bah, en fait, c'est le jeu du téléphone arabe. Okay. C'est un jeu sur Internet qui s'appelle Gartikphone.
Ok, ben bah voilà.
Mais ouais, c'est, enfin, c'est le moulin. Enfin, je sais pas.
Perte de sens.
On peut plus trop dire. C'est cancel justement. Et vous?
Moi, c'est un peu comme le dab, en fait. C'est-à-dire que ça a été cool pendant quelques mois. Et puis, quand j'ai vu Fillon le faire, j'ai dit, bon, c'est bon, je vous laisse. C'est un peu pareil avec le wokisme, quoi. Dans le reste,
moi, c'est marrant, c'est un mot que j'ai beaucoup plus lu qu'entendu dire.
Ouais.
Donc, c'est pas un mot qui me viendrait à l'esprit pour qualifier ou définir quelque chose. C'est-à-dire, je vois ce que ça voulait dire. Enfin, je voyais ce que ça voulait dire. Je l'entendais voilà, dans la chanson, qui est d'ailleurs très bien, d'Erykah Badu. Mais après, donc du coup, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais écrit.
Ouais. Bah, ouais. Et puis là, maintenant, c'est devenu complètement rincé, quoi.
Bah, comme le dab, c'est parfait, ouais, en fait. Ouais, c'est-à-dire que les gens, peut-être, font encore des challenges. Ils se disent, je vais le placer, mais non, ça ne va pas. Par contre, ça soulève des sujets où tu es là... Ouais, on est mal barré quand même.
Ouais. Puis en plus, le truc, c'est que même, j'ai l'impression, comme tu disais, Kevin, même les personnes noires, déjà, utilisaient un peu ce mot au second degré, quoi. Mmh. Tu vois, on n'a jamais été vraiment genre, oui, on va faire... Enfin, il y a eu des t-shirts Stay Woke, mais on n'était jamais à fond, en mode, c'est hyper sérieux. Et même dans la série Dear White People, à un moment, ils avaient créé une appli qui s'appelait Woke or Not, où tu devais noter les gens pour savoir s'ils étaient woke or not. Enfin, c'était déjà du foutage de gueule, en vrai.
Mais je crois qu'il y a eu un média, vraiment, internet vidéo, qui s'appelait Woke, en fait. Woke Media ou quelque chose comme ça. Ouais, qui est apparu justement dans la période, tu parlais, 2014, ouais. 2015, peut-être 2016, ouais. 2017, comme ça. Ouais. Je pense que quand même, après, il y a aussi des gens qui l'ont pris avec sérieux parce que c'était peut-être le successeur de, je sais pas, de plein de théories afrocentristes, du panafricanisme,
de justice sociale,
et tout.
Progressisme, en fait.
Ouais, vraiment. Et que, comme tu le dis, c'est vrai que ça a été caricaturé par des personnes, en fait, qui, toute la journée, ils savent pas ce que ça veut dire que d'avoir besoin d'être...
Mais c'est ça. Et puis, en plus, je pense qu'il y a vraiment un truc, c'est que, franchement, les Blancs qui récupèrent la culture noire, ils la gâchent, quoi. Enfin, il gâche le truc, en fait.
Il gâte.
Mais c'est ça. Il y a des trucs qui sont des noms de code, des paroles de chansons, même juste des mèmes. Ça devient, en fait, des éléments de langage utilisés pour nous ridiculiser, quoi. Et ça perd toute la saveur. Un peu, je sais pas si je peux la faire, mais je la fais quand même un peu comme la cuisine occidentale. Wow.
On a perdu les épices. Hein.
Voilà. Ouais. Ça, c'est plus très goûtu. Mais voilà, en gros, moi, du coup, j'ai un conseil. C'est créer vos propres mots. Arrêtez de venir piller le lexique de la black culture, là, et pour nourrir vos débats entre chauves d'extrême droite à la télévision. Enfin,
J'ai un truc à ajouter. Tu disais, quand tu disais créer vos propres mots, vos propres expressions, moi, depuis le début, je pense à un truc. Je pense à aware. Il y a 20 ans, à l'époque de Jean-Claude Van Damme, qui devait à peu près dire la même chose. Mais c'était pas sur la justice sociale. Mais non. Il avait vraiment diffusé le truc de « je suis aware, t'es aware », etc. Donc c'est, ça, c'est un peu pour les gens à l'ancienne.
Mais comme souvent, hein, Jean-Claude Van Damme a souvent été en avance sur son temps.
Mais je pense qu'il se faisait vanner parce que justement, il y avait ce côté un peu bilingue qui met très mal à l'aise ici parce que Jean-Claude Van Damme était complètement bilingue en ayant travaillé à Hollywood. Donc il faisait des trucs en français et puis il mettait des mots en anglais et ça, ça mindfuckait les gens. Et je crois que c'est un peu la même chose. Hein. C'est
un peu la même chose avec les gens dans les commentaires du type qui disent arrêtez de parler franglais, tu vois. Finalement, parce que Jean-Claude Van Damme, encore une fois, c'était, tu vois, c'est le OG.
Ah, il était là avant son heure. L'original gangster.
Ouais. Tu sais que le coup d'oro, le nom coup d'oro et la danse du coup d'oro viennent aussi de Jean-Claude Van Damme. Je suis extrêmement sérieux. En fait,
le truc d'Angola là.
Ah oui, je digresse un petit peu du coup, mais en gros, c'est un chorégraphe qui a plus ou moins inventé le terme et la danse du coup d'oro. Et en fait, il s'est inspiré d'un film de Jean-Claude Van Damme que je peux plus vous nommer, qui est sorti genre en 90 par là, où en fait Jean-Claude Van Damme est habillé en blanc et il danse très mal, mais il a une façon de chalouper un peu bizarre.
Ouais,
et
mais ça, c'est des mêmes, ça. C'est des chiffres, ça.
Voilà. Et en fait, Jean-Claude Van Damme à l'époque, il était machin, il était en forme. Il avait un beau bouti et du coup cul dur, coup duro en portugais. C'est comme ça que le gars il a dit le fameux chorégraphe, il a dit je vais appeler ça coup duro en hommage à Jean-Claude Van Damme. Voilà, fun fact.
The more you know. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire que partout à la télé aujourd'hui, dans les médias, les personnalités de droite et d'extrême droite, on leur déroule le tapis rouge, elles sont dans les abribus. Il y a les couvertures Valeurs Actuelles qui tapent sur la fac, les islamo-gauchistes, la terreur végane, la nouvelle terreur féministe, et le wokisme. Et du coup, je me dis, juste arrêtez, quoi. Je sais pas comment le dire plus. Arrêtez de récupérer. Créez vos propres trucs, voilà. Est-ce que l'extrême droite a déjà inventer un concept.
Franchement, ils sont assez bons pour les néologismes.
Ouais, ils poussent pas, hein.
Tu veux dire les journalopes et tout, là?
Ouais, journalopes, c'était marrant. Franchement, c'est un bon jeu de mots, c'est bien trouvé. À l'époque, quand il y avait encore l'UMP, tu sais, ils disaient, ouais, il faut lutter contre l'UMPS. Tu sais, l'idée selon laquelle c'est la même classe politique. Honnêtement, ils sont bons pour les néologismes, je leur accorde ça.
Mais voilà, continuez à faire ça, faire vos néologismes, mais venez pas piller la black culture.
Du coup, c'est un iconique pour toi, c'est ça?
Du coup, non. Du coup, c'est un trash au mot woke en 2021, parce que c'est bon. On est venu, on a vu, c'est parti. Mais, et je mets un trash effectivement à la droite et au blanc qui récupère la black culture.
Tu mets pas un iconique à l'extrême droite, je m'attendais
oh
pas.
Non, mais c'est trash, François.
Je plaisante.
Non, et on leur a rien demandé. Faites vos néologismes, mais arrêtez de venir pourrir chez nous, c'est tout. Voilà.
Mais du coup, ça veut dire que tu places par exemple Frédéric Vidal dans
mon trash?
Ouais, parce que tu parles de l'extrême droite et de la droite,
la nice
mais il y a aussi
supérieur.
Une partie...
Non, de l'enseignement supérieur.
C'est ça,
ouais, les
centristes, et certaines personnes
moi,
de la de gauche.
Dès que tu t'acoquines un peu pour dire oui, l'islamo-gauchisme
pour toi,
et les
ça autres... Fait
ouais, bah, dans ce cas-là, il y a deux tiers de la gauche dedans. Hein.
Tout le monde est dans mon trash.
Tout le monde est dans ton trash. Allez, voilà. C'est parti.
Me against the world, baby. Tupac.
Non mais c'est parfait, François. On va passer au plat principal, au dur. Voilà, c'est ça.
C'est de toi qu'on parle, meuf.
Non mais je veux dire du segment principal de l'émission. Excuse-moi. Dolores, on t'a reçu pour parler de l'article qui est paru le 21 mai dans Libération, qui s'intitule Qu'est-ce que c'est que ce zouk?
Alors, le titre n'est pas de moi.
Okay. Ouais, les SR de Libé, comme d'habitude, ont frappé.
Je veux le redire. et en plus, il y a la couve, parce que c'est un dossier, et c'est « Quoi qu'il en zouk ».
Ah, oui. J'avais pas vu ce surtitre-là, je l'avais pas vu.
Non, mais pourquoi les jeux de mots comme ça?
Je ne sais pas. On a compris de quoi on parle.
Oui.
C'est très interpellant, mais je n'ai rien à faire avec.
Est-ce que tu es contente, au-delà du titre, est-ce que tu es contente des retours que tu as eus sur l'article?
En fait, je suis un peu étonnée. Parce que il y a beaucoup de gens qui étaient là, c'est super. En fait, il y a cette idée que dans le mainstream, en tout cas, on n'en parle pas assez de cette musique. Donc ça m'a vraiment choquée. Je me disais, mais attendez, je comprends pas.
Tu peux nous le résumer un petit peu en quelques mots, l'article?
En gros, l'article... Alors, il y a eu plusieurs pistes, mais quand même, l'idée, c'était... Parce que moi, j'écris beaucoup sur les musiques qu'on appelle urbaines.
Ouais.
Et en gros, je voulais en parler différemment. Et remettre au centre, en fait, d'un coup, je me suis dit, mais attends, le zouk, en fait, c'est une musique. Quand on parle du rap, on aime trop dire zumba, pop urbaine. Ouais. En fait, il faut dire les vrais termes, en fait.
Dis les termes.
Voilà. Et les vrais termes, c'est que ces musiques sont populaires et sont classées numéro un. Parce que justement, il y a toute une génération d'artistes, que ce soit les beatmakers, les chanteurs, les interprètes, etc., qui en fait ont digéré toutes ces musiques afro-caribéennes. Ouais. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Mais du coup, après, j'ai juste regardé les tops des titres que j'aimais bien. Ouais. Et je me suis rendu compte que il y avait bon nombre de titres qui cartonnent. C'est des titres en fait où il y a des effluves ou des inflexions zouk, quoi, tout bêtement. Et comme on a parlé de la congolisation, pas moi, mais Sindanu Kasongo avait parlé de ça et d'autres, je me suis dit, pourquoi on dit jamais que des titres de pop urbaine sont en vrai des titres qui, en gros, se basent complètement sur le zouk, quoi.
C'était vraiment le point de départ. Zoukisation, quoi.
Voilà, on peut dire ça aussi. Zoukisation des esprits, créolisation.
Créolisation, en plus.
Et c'est ça.
Édouard Glissant adorait.
Et voilà, donc c'était vraiment ça l'idée. Et ensuite, là-dedans, il y a énormément de sujets que j'ai effleurés parce que j'avais qu'un article. Ouais. Mais il y a énormément de sujets dont il faut absolument parler et dont l'article était l'occasion de le faire. La question du marché aussi de cette musique qui continue d'exister, en fait. Ouais. Mais de notre point de vue, genre d'hexagonaux, c'est une musique qu'on continue de voir et d'entendre l'été éventuellement. Ouais. Tu sais, t'es là, mais de quoi faudra. Quand tu regardes un peu, tu te dis, mais c'est une musique qui est archivivante, en dehors du fait qu'elle est réutilisée par. Par la musique urbaine.
Commençons par le commencement, par l'article. En fait, au début, tu donnes tu cites Jacob Desvarieux, donc de Kassav, qui affirme que avant d'être un genre musical, le zouk c'est un constat, le marqueur d'une région. Est-ce que tu peux un peu élaborer, expliquer ce que ça veut dire?
Alors, j'ai eu la chance effectivement d'avoir Jacob Desvarieux et Pierre-Édouard Décimus, donc ils font partie de la formation, exactement. Mmh. Ce qui est hyper intéressant, et je trouve que, pour le coup, il y a vraiment ce truc de c'est une musique commerciale, le zouk c'est une musique limite qu'on réduit au zouk love, mais en vrai il n'y a pas de mal à entendre chanter l'amour et quand c'est bien chanté en plus, voilà. Mais il y a ce truc où en fait on oublie qu'à la base c'est quand même une musique postcoloniale, c'est une musique qui est quand même marquée par, c'est une musique qui est éminemment française, parce que c'est une musique de l'histoire qui raconte en fait ce que c'est que l'histoire de France, qui est une histoire violente, et à la base de leur réflexion, puisque à la base en fait Kassav, le Zouk, ils nous disent voilà, nous c'est un laboratoire d'expérimentation musicale. Je veux dire, moi rien que ça, je me dis mais waouh, en fait ça doit faire rêver tout le monde. Il y a combien d'années qu'on n'a pas créé et inventé une nouvelle musique?
Ils ont pris plein d'influences différentes qui les touchaient à l'époque.
Et parce que déjà, d'une part, bon, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais les Antilles sont un carrefour musicalement, socialement, culturellement, historiquement. Et ensuite, ils ont des vécus aussi différents, rapport avec l'Hexagone, avec l'Afrique aussi, donc nourris de plein de musique. C'est aussi un territoire qui est près des États-Unis, donc la salsa, la musique jamaïcaine, qui devient une musique qu'on reconnaît entre mille. Et donc tout ça, en fait, va nourrir en fait la réflexion autour de nous. On aime la pop, on aime la chanson française, on aime ce qu'il y avait à l'époque, mais on manque d'une musique jeune, populaire, créée en fait de nos influences, des rythmes qui existent aux Antilles. Évidemment, la biguine, la cadence, il y a le compas aussi qui traverse le
compas
et le guoka, donc la base rythmique. Et pareil, le guoka. Quand tu regardes les danses guoka, tu te rends compte que quand tu vas en Guinée Conakry, les danses, les rythmes ne sont pas si éloignés. Ouais. Donc tout ça, en fait, il y a une logique implacable. Mais voilà, il y a toute cette question de cette musique post-coloniale créée par des gens qui ont une histoire diverse et qui sont ouverts et en même temps qui sont très conscients de cette histoire. Et c'est un acte... c'est
politique.
Un acte politique... que moi je trouve, que je trouve révolutionnaire d'ailleurs, la preuve, ils ont créé un genre qui jusqu'à maintenant.
Mais tu parles de racines postcoloniales et de la dimension identitaire, on va dire, du zouk. C'est important de rappeler ça pour réhabiliter, on va dire, le zouk dans la conscience collective française. Mais moi, j'ai même envie de dire que d'un point de vue purement, purement musical, on a tendance aussi à oublier que le zouk, c'est une musique de qualité. Tu vois, et c'est ça que j'aimais bien dans ton article. Ça m'a rappelé un autre article aussi par un journaliste, je crois qu'il s'appelle Brice Miclet, qui a un peu un angle différent du tien, mais c'était toujours dans cette idée de montrer que le zouk, c'est une musique sérieuse et une musique ultra technique. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé dans ton papier. En faisant des petites recherches, par exemple, je trouve une anecdote comme ça sur Kassav, encore une fois. C'est Miles Davis, donc le célèbre jazzman, qui dit dans les années 80, dans son autobiographie, que le gars, il a écouté Kassav et qu'il a adoré. Et qu'il a, en fait, il travaillait avec un... En gros, pour la faire simple, il travaillait avec un...
Chris Miller et Quincy Troupé.
Quincy Troupé, merci. Mmh. Hein, qui est poète, c'est ça?
Quincy Troupé, il est... je ne sais plus.
Ouais, c'est un poète, homme de lettres, etc. Ouais. Et en gros, il travaille avec ce mec qui s'appelle Quincy Troupé et qui avait une maison en Guadeloupe. Ouais. Du coup, le mec lui ramène des disques de Kassav aux États-Unis. Et là, il écoute et il est matrixé par Kassav. Et il va s'inspirer du coup de Kassav pour son album
Amandla.
Donc, c'est ça aussi que je trouve toujours un peu... déprimant, si tu veux, dans la perception qu'on a en France du zouk, c'est qu'on a tendance à voir ça comme une musique légère, comme une musique de tube de l'été, etc.
Et appliquer des carcans doudouistes, le fameux doudouisme, c'est-à-dire musique liée à l'été, alors que le concept de chanson de l'été dans des îles tropicales, ça n'a pas vraiment de sens, à vraiment minorer et à réduire le truc, à le mettre juste sur des chansons de déception sentimentale, alors que ça peut être plein de thèmes divers et variés. Donc,
le côté, ça c'est, on en parlait avec l'attachée de presse en fait, historique, qui accompagne depuis longtemps Kassav sur la presse, etc., et avec Specta aussi, donc tout l'aspect très doudouiste, donc les cocotiers et tout, qui font que on considère que et la compagnie créole et Kassav, c'est la même chose. Et No Shade, mais c'est juste entre une réflexion, un creuset vraiment musical. Enfin, je veux dire, parle de gens qui faisaient des expérimentations et qui ont stabilisé une formule au milieu des années 80 et qui ensuite ont inondé le monde entier. Ça a été l'un des premiers groupes à aller jouer, premier groupe noir à aller jouer en Russie.
Ouais. Premier groupe français à remplir le Stade de France.
Le Stade de France, il n'y a pas si longtemps.
Et tout le monde dit que c'est Indochine. Alors qu'ils l'ont fait ans avant Indochine.
Plusieurs mois après, mais la même année, je crois.
C'était en 2009, en 2009 pour Kassav. Ouais. Et moi, toutes les fois où, je sais pas, j'étais dans des festivals ou surtout des festivals, du coup, parce qu'il y a une succession d'artistes, il y a un moment, Véronique Sanson, on aime bien et tout, mais Kassav, est arrivé vite. C'est-à-dire, il y a un engouement et un truc, et c'est marrant, j'en parlais aussi avec quelqu'un qui travaille beaucoup sur cette musique, qui dit, il faut voir ce qui se passe dans les salles. Les gens n'ont aucune notion de ce qui se passe dans les salles qui, en fait, quand il y a un public qui attend Kassav, et donc d'autres groupes, il n'y a pas cet engouement pour énormément d'artistes en vrai.
Mais alors, question, parce que là, il faut mettre le doigt. On se rend compte qu'il y a une espèce de méconnaissance ou de manque de reconnaissance aussi sur le zouk. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons?
Pour plein de raisons.
Because racism.
Mais en tous les
Because
cas...
Slavery.
En tout fin cas, d'épisode. Tout ça, on met ça bout à bout. Et c'est pas compliqué, de se rendre compte qu'il y a eu un moment, un espèce d'âge d'or.
Ouais, quand ça a vraiment explosé.
Parce qu'en fait, je pense que c'était aussi concomitant avec ce qu'on a appelé la musique du monde. Enfin, les musiques du monde qu'on continue d'appeler comme ça, malheureusement. Malheureusement aussi, parce que c'est d'ailleurs, je crois, dans une interview, ce que dit aussi Jacob Desvarieux, où il dit que, en fait, on a beaucoup associé le zouk et pas que le zouk. Et d'ailleurs, Alexis Onesta, c'est ce qu'il dit dans l'article. Il dit, avant, pour trouver du zouk à la FNAC, il fallait aller au rayon musique du monde, alors que c'est une musique française. Si on veut être juste... Donc, ça veut dire que c'est une musique qu'on ne catégorisait pas comme une musique
de chez nous, quoi.
C'est pas une musique française. C'est pas une musique française. Et donc, il n'y avait pas que ça. Il y a eu le rail, c'est des musiques, on leur a ouvert un peu un espace, c'était cool. Comme là, il y a des musiques cool en ce moment qu'on aime. Puis, à un moment, c'est bien gentil, mais maintenant, il faut rentrer chez vous.
C'est ça qui est... Je pense que comme tu... Tu fais référence du coup à, notamment à la période tube de l'été où chaque ouais. été il fallait un peu 90. Voilà quand ouais. il fait beau quand il faisait beau il fallait
avec
un morceau
le petit jingle sur TF1
voilà et fallait puis, fallait
et
danser
et puis la sensation de la nouveauté
et puis tu sais les tubes de l'été mine de rien ça a fait beaucoup de mal je pense à toutes les musiques du monde entre guillemets parce que c'était vraiment une sorte de
moi j'appelle ça du surimi.
Bah.
Pourquoi ?
Parce que j'aime pas le surimi, c'est un mélange de trucs pas nobles, etc., qu'on agglomère, et c'est un peu ça, pour moi, le, ce qu'on a fait.
Donc il y a Kalelo, non ?
Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont fait la même chose au Zouk qu'ils ont du coup fait à la Lambada, donc ouais. à tout ce qui est Bossa Nova, au Rai également. À chaque fois, c'était des musiques qui étaient prêtes à la consommation et réduites à quelque chose de très unidimensionnel, et puis on jette. Et du coup, encore aujourd'hui, même avec la Zumba dans le rap, par exemple,
moi, j'ai pas jeté, hein, c'est toujours sur ma playlist.
Mais tu vois, il y a ce truc où maintenant, du coup, on va estimer que le Zouk et toutes les autres musiques qui sont passées par ce filtre des tubes de l'été, ce sont pas des musiques sérieuses, voilà, nobles, crédibles. On parle de, je me rappelle quand Validé de Booba est sorti, qui n'est pas du tout un morceau de Zouk. J'ai entendu, j'avais des potes autour de moi qui disqualifiaient ce morceau
parce que c'était du Zouk.
Sur la simple, voilà, sur la simple présomption que c'était du Zouk. Ils disaient non mais attendez, non mais t'as vu Booba, il s'est mis à faire du Zouk, ridicule. Juste pour ça, ils disaient non mais c'est bon, c'est pas un morceau. Alors déjà, c'est pas du Zouk, c'est de l'afropop. Ouais. Et ensuite, et alors, même si c'était du Zouk, qu'est-ce que ça,
mais tu ça vois dit, ça dit aussi le côté aussi où comment le Zouk, enfin les gens ont perdu aussi l'essence ou la compréhension de ce que ça peut être comme musique. Et en fait, moi, j'ai, bon, après, je suis pas la seule, mais quand même, j'établissais un parallèle avec la musique rap qu'on a tendance à superposer assez rapidement, alors que c'est des musiques qui, pour moi, sont aussi jeunes l'une que l'autre, plus ou moins, et qui, en fait, ont un parcours similaire. C'est-à-dire que c'est des musiques qui ont vachement pu intégrer beaucoup d'autres musiques qu'elles-mêmes, en fait, parce qu'elles-mêmes sont des influences, voilà. Et tu vois, par exemple, tu parles de ce moment où, en fait, en gros, les rappeurs ont commencé à chanter. Déjà, c'était « Oh mon Dieu !» alors qu'avant, c'était « Ouais, gangsta, tout ça. » Et déjà, en fait, on se discute de savoir si le rap, c'est « Vive la fête » ou si c'est la revendication sociale. Ce sont les deux. Et le zouk, ce n'est pas que chanter l'amour, mais c'est aussi chanter l'amour.
Et même si et ça chantait l'amour, tu vois,
oui,
ouais,
mais voilà,
problème,
mais
quoi.
Parce qu'il y a cette idée aussi d'un peu d'affaiblissement, de « Puis musique du soleil, c'est des musiques, bon, du coup, où c'est un peu faiblard, on peut pas dire des choses. » On en dit plein, des choses.
C'est ça.
La question de la langue aussi, qui est une question en fait,
politique, quoi, de chanter en créole ou en français.
Oui.
Ou...
Et comment tu l'as fait sonner, c'est un travail, en fait. Pas n'importe qui sait faire. Enfin, je veux dire, il y a aussi un espèce de truc un peu... pas que mystérieux. Bon, ils ont mis en place une science qui s'est propagée. Et voilà, on est encore dedans, preuve en est. Mais faut pas se mentir. Tout le monde ne sait pas faire sonner bien une langue. Tout le monde ne sait pas.
Créole, c'est quand même mélodieux.
Pardon ?
Créole, c'est quand même mélodieux. Enfin, c'est plus facile de faire sonner du créole que,
mais
que de l'allemand.
Tout le monde ne sait pas le faire. Moi, bien j'arrive pas demain. Il faut quand même un moment être un savoir faire de la DA. Voilà, il y a des rythmes musicaux. Et puis, attraper ton public aussi. Si fin. Et donc, effectivement, on dénie à cette musique la possibilité d'eux, et on voit bien, il y a une invisibilisation. Tu demandais pourquoi ? Il y a une invisibilisation qui est une invisibilisation générale. On a l'impression qu'on ne peut pas intellectualiser cette musique, mais pourquoi, en fait ? Vous comprenez déjà ce qui est raconté ? Vous savez dans quel climat social, en fait, cette musique, elle est faite ? Quelle puissance, en fait, elle a ? Il y a tellement de choses à en dire. Et le fait que les gens n'en parlent pas tant que ça, ou juste pour toujours rappeler effectivement ces racines qui sont hyper importantes, mais à un moment donné, pourquoi on la traite pas comme la musique pop en France, excusez-moi, mais en France hexagonale. Hein,
alors, t'arrives sur ma question suivante. Ouais. C'est, tu vois, j'ai lancé là récemment la playlist Spotify pop urbaine, et les sonorités sont vraiment zouk compatibles. La première question, c'est comment on est arrivé là, tu vois, ce transfert, en tout cas cette influence du zouk vers la pop urbaine. Et puis ensuite, question plus profonde, pourquoi Dadju c'est plus fort que Vianney ?
Ah ouais.
C'est pas une question profonde, Kevin.
C'est
une question
profonde.
C'est évident que c'est mieux.
C'est une question profonde parce qu'il y a une sortie de Vianney l'été dernier, l'année dernière, au sujet de Dadju qui m'a énormément irrité. Où
il disait
quoi ?
Mais c'est un personnage irritant.
En gros, il disait que Spotify c'était pas bien. parce que ça récompensait les artistes qui streamaient trop, et donc le père de famille qui paye un abonnement Spotify à sa famille, lui il écoute je sais pas Neil Young, et en fait c'est son fils, à cause de son fils, qui écoute 10 fois Jadju par jour. Frère, c'est le capitalisme, pourquoi?
Frérot, bref, on a fait ça, l'algorithme,
c'est pas bien, exactement. Donc Dolores, ton point de vue sur ça, comment on est arrivé là et pourquoi Dadju c'est plus important que Vianney en 2021?
Eh ben parce que je pense que tout simplement, je sais pas de quelle génération vous êtes, mais si on considère que Kassav, ils ont stabilisé la formule Zouk au milieu des années 80, bah, y a toute une génération en fait qui a grandi avec cette musique, ouais, et qui, au contraire des dominants de l'industrie, se sont jamais dit ah, c'est quoi cette musique, mais c'est la musique de l'été. Non, eux, en fait, il y a même une génération de gens qui n'est même pas nécessairement antillais ni même afro. Et d'ailleurs, c'est par exemple le cas du titre. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, quand tu te rends compte que derrière la prod de Joli Bébé, par exemple, qui a été un carton
de NASA
et qui a un zouk.
Ouais. C'est choquant.
Voilà, c'est du zouk. Ouais. Chanté par deux rappeurs, dont deux qui sont en fait africains d'origine congolais, des deux, donc d'une région quand même, d'un pays
éloigné, bon, quoi, des Antilles.
Bah, éloigné, mais quand même qui a un vrai lien pour.
Non, je veux dire géographiquement.
Oui, mais qui a un vrai lien.
Kinshasa,
au niveau
1988,
de la
concert de Kassav.
Déjà, musical, un vrai lien aussi en termes de comment cette musique, la rumba, a complètement immergé, innervé la musique actuelle. Donc il y a vraiment des vrais parallèles. Un amour sans doute pour cette musique. Et la prod, il y a deux mecs qui font la prod qui ne sont pas du tout antillais. Et bon, moi, ils n'ont pas parlé publiquement dans l'article, mais je les avais contactés parce que je trouvais ça intéressant. Et ça fait partie de leur culture. Donc ça veut dire, pour comment on en est arrivé là? Parce qu'il y a des jeunes gens, comme Aya Nakamura, sentiment grandissant, quand elle en parle, et dans l'article, j'ai repris l'interview qu'elle avait donnée à Trace pour où elle disait « Je suis honorée ». C'est-à-dire que Karima ça a été, pour moi, ce sont mes stars. Et en fait, c'est des personnes, si on leur pose jamais la question, ils ne vont pas le dire. Mais quand on leur demande musicalement qu'est-ce qui les a,
c'est
eux,
quoi tes influences,
bah, c'est cette musique-là. Mais comme le mainstream n'en parle jamais, et que
ils pensent même pas à poser la question, en fait.
Alors qu'on parle de musique, mais on parle jamais de musique au final quand on parle à des artistes qui font de la musique. Bon, bref, c'est aussi une autre des problématiques. Mais leurs influences sont celles-ci, et donc d'une manière générale, ils ont digéré. Et puis la preuve, c'est que la formule, elle est impeccable, ça marche.
Et quand on regarde maintenant sur chaque album de pop urbaine ou de pop, tu vas avoir un titre Zouk ou compas. Et s'il y en a pas, tu vas avoir plus tard un remix, par exemple, je pense à Taiki avec N'y pense plus, c'est Yemi qui a fait
titre.
Ouais, il est mortel, même si je l'ai un peu trop entendu là à ce niveau. Ouais. Et il a fait son remix caribéen version, qui est moitié zouk, moitié compas. J'ai trouvé que c'était un bel hommage, surtout qu'il nous a traité d'esclaves il y a quelques années. Mais oui, il s'est retrouvé dans une sauce comme ça, parce qu'il a fait des tweets pas très gentils sur les Antillais. Ouais. Mais c'est gentil d'avoir fait une version compas, Taiki. Merci beaucoup.
Mais le titre est efficace parce que justement la formule, elle l'est, en fait. Bien sûr. Maintenant ils se rendent compte. Et puis c'est comme l'ascenseur pour être numéro un. Joli bébé, c'est incroyable.
Et vous avez vu le tweet de Fanny G ou pas, qu'elle a dit qu'elle s'était pas connectée à son compte Spotify depuis longtemps, et qu'en fait il y avait 5 millions d'écoutes supplémentaires sur Ancré à ton port.
C'est marrant comment ce morceau il dure dans le temps.
Infatigable.
En 2018, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les vestiaires et dans le bus de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, c'était l'hymne de l'équipe de France.
Mais en même temps, enfin. Quand tu demandes,
ça a collé, on peut dire.
On peut le dire.
Voilà. Mais quand tu demandes même à des artistes d'expliquer qu'est-ce que ça leur fait que de jouer qu'est-ce que ça leur évoque cette musique, c'est difficile à dire à part de dire c'est un sentiment. Et la musique, c'est quand même aussi.
C'est un sentiment grandissant. Allez.
Non, c'était très bon, très très bon. C'est un 10, ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est une musique qui te. Après, je dis pas, il y a des gens qui peuvent pas supporter, et bon, bah, dommage pour eux en vrai. Mais moi, je sais pas. Même par exemple, j'avoue, j'adore jouer de doigts de filet.
Ouais.
Et quand j'entends dans mes aveux, alors on parle pas de zouk, hein, mais à la fin, la partie compas. Faut pas être chez moi dans la musique, parce que c'est une musique qui te prend, qui musicalement qui est en place, quoi.
Après, on a le droit de pas aimer le zouk, mais le problème, en fait, je trouve, je reviens encore sur cette idée, tu sais, de mépris parfois musical, c'est que les trois quarts des gens qui vont on va dire, qui sont extérieurs à cette culture, qui ne vont pas aimer le zouk. Mmh. Si tu écoutes un peu ce qu'ils disent, ça va plus être par une forme de, ouais, de méconnaissance, voire de snobisme.
Ouais.
Je digresse à nouveau sur le rap et la Zumba. Je me suis souvent retrouvé dans des conversations à défendre Jules presque malgré moi, alors que moi, je ne suis pas un grand fan de Jules, parce que...
juste à cause du mépris des gens.
Voilà, parce qu'en fait, la Zumba, c'est un peu comme le zouk, c'est un peu comme on disait avec le rat et la salsa. Et vu que la Zumba, ça puise dans toutes ces influences-là, je me rends compte qu'il va se retrouver un peu frappé par du classisme et du racisme.
Et du coup,
je vais me retrouver à devoir défendre Jules par pure posture politique.
Mais
tu
est-ce qu'on se rend compte qu'en France, on est tellement, comme tu le dis, snob et tellement. Il y a la grande musique et la musique populaire, qu'on est obligé de déterminer un genre qui veut rien dire, en fait, la Zumba. Pour juste dire, on aime un peu les choses avec un peu de musicalité, où ça chante, et où en fait, on en est là. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, il n'y a pas énormément de pays, on n'a tellement pas de culture musicale, où c'est juste les grands ponts de ceux qui sont autorisés à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'on crée des sous-genres de genres pour dire, bah voilà, là, ça, là on fait de la musique, ou des Jules. Jules, combien de temps on a pris moi, je me rappelle, quand c'était en 2014, quand il sortait des Sorts, les Cross-Volets, que j'écrivais dessus. Et en fait, il a mis mais tellement de temps à devenir mainstream, pour la presse mainstream,
fréquentable,
pour des raisons,
ouais,
pardon, et ensuite à faire la couve.
Mais toujours pas
à
fréquentable.
Faire des couves.
Si, parce que moi ce que je voulais dire, c'est que pour les rappeurs, par exemple, presque tous les rappeurs français, sauf quelques exceptions, pas de coupé décalé fils, mais à part quelques exceptions, le tube, ce qu'on a appelé Zumba, est en passage obligé, et donc tout le monde veut son featuring avec Jules, avec Dadju, etc., parce que ça va streamer très très fort, mais à la base, l'expression Zumba, en fait, la Zumba, c'est le truc de Colombie, aérobic, machin, etc. Mais c'est Rof qui, justement, taclait Gims en lui disant « j'ai dit non à ta Zumba, et malgré ça, j'arrive à faire des ventes ». D'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode de Tier List, « non à ta Zumba », qui ont classé des albums de rap qui, justement... disent oui à la Zumba, enfin bref. Mais est-ce que le rap est totalement décomplexé sur ce sujet, ou est-ce que c'est cynique ?
En fait, il n'est pas décomplexé du tout sur le sujet. D'ailleurs, il l'évoque, il évite de l'évoquer le plus souvent. Hein. C'est soit des sourires gênés, soit... voilà. Et je trouve, mais ça, ce n'est que mon avis, que malheureusement, parfois, il prend aussi le nez haut, qu'on peut retrouver dans d'autres musiques, malheureusement. Mmh. Alors qu'on devrait être fier de dire, je pense qu'on va en parler, mais on a quand même la chance par rapport aux États-Unis, qui est le modèle écrasant, d'avoir des gens qui viennent de partout dans le monde et qui peuvent créer des sous-genres comme il y a en Angleterre, où eux, ils ont leur musique urbaine, on appelle ça grime, mais une musique urbaine qui est créée parce qu'il y a eu une collusion entre différentes cultures qui font que les Jamaïcains, les Nigérians ont ramené leurs vibes dans une musique qui finalement devient toute autre chose et est hyper spécifique. Et nous, en France, on va en parler, mais bien avant l'afro-trap, notamment dans le rap, il y a eu ce qu'a fait le Bissau Nabisso, qui a permis de dire on peut faire du rap, avoir mélodiquement le flow, etc., tout en ramenant un héritage culturel déjà que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, mais qui va vous faire danser, parce que c'est ça notre culture aussi. Et ça, c'est quand même puissant.
François, t'avais un point sur Bissau Nabisau, non ?
Ouais,
il est là, le truc.
J'en parle parce qu'il faut en parler, on est obligé.
Tu sais pourquoi il faut qu'on en parle.
Oui, on est obligé d'en parler.
Non, mais parce que c'est vrai que quand on a commencé à penser à cet épisode, etc., à se dire... On parle de Zouk. Kevin, en fait, je marche un peu sur tes pieds, mais tu voulais qu'on parle du fait que le Zouk, finalement, c'est en train de devenir une sorte de mouvement presque panafricaniste, en fait. C'est ça?
Ouais, quasi, ouais. Utopie panafricaine, point d'interrogation.
Utopie panafricaine, point d'interrogation. Parce qu'en fait, il y a ces connexions, en fait, qui existent depuis très longtemps entre le zouk et les musiques africaines, donc avec des S, et qui est intéressante. Et du coup, moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que finalement, c'est pas une utopie, c'est pas un truc qui pourrait advenir dans le futur. Ça et ça existe déjà. On l'a vu avec Bisson à Bisso, quand t'as un Passy, Lino, Deux Balles de Nec, tout ça, Jacob Desvarieux, Tania Saint-Val.
Ça me met en transe.
Qui font un album commun. En plus, c'était un collectif, c'était même pas un groupe, c'était un collectif. Ouais. Et qui font ce tube de The Club.
L'Embout pas méchant.
L'Embout pas méchant, en effet. Parce que, en fait, on a beaucoup chanté le morceau avant
le début du...
Et maintenant, on est si vite, tu vois, ça me saoule.
Ce soir, c'est l'auto, je gagne. Ah non, non, ce titre-là, il est incroyable.
Il est vraiment incroyable. Ouais. Et donc, je trouve que c'est un truc que, en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous apprend pas assez ces connexions entre l'Afrique et les Antilles.
Bah, en fait, par exemple, tu vois, voilà, typiquement 85, on a... ce qui est intéressant, c'est que ça arrive après un disque d'or de Kassav, d'Ife, 95. Et il y a tout ce moment où... voilà. Et il y a tout ce moment où tu as des artistes aussi qui commencent à devenir... Enfin, à faire carrière solo, bah, donc Passy, à aussi à devenir producteur. Et où tu as une espèce d'un... Alors, je ne sais pas si c'est panafricanisme. En tout cas, tu as une espèce d'international des musiciens afro qui sont mainstream, qui passent à la télé en France, sur TF1, etc. Et qui, en même temps, initient des projets collectifs qui sont... et c'est ça que moi, je trouve incroyable, commercialement plus que viable.
Et super bien produit. Et carré,
et,
quoi.
Et genre, c'est la musique, en fait. On parle de musique.
Dealer de Zouk. Dealer de Zouk. Laisse parler les gens, etc.
J'avoue, j'aime pas.
On a tendance
pas à laisse parler les gens.
On a tendance à voir Dealer de Zouk comme un peu un guilty pleasure.
Parce que tu laisses pas parler les gens. Pour ça, t'aimes.
Non, mais tu vois, tous les artistes qui sont sur le truc, Sonia Dersion, Lyncha, etc., j'ai saigné ça à la fin des années 90. Mais Dealer de Zouk, en fait, c'est... Je m'apprête à venir m'installer ici. C'est trop en français, c'est trop machin, c'est
évidemment
trop
c'est formaté pour la radio hexagonale.
Et ça, je le comprends, mais c'est vrai qu'il y a ce... En tout cas, il y a ce moment qui s'ouvre, qui est en fait finalement comme une deuxième époque. On est déjà dans cette première phase en vrai de zoukification de la musique urbaine en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà sur des gens qui disent hey, nous on était en gros l'équivalent, j'exagère, mais peut-être de. Enfin, on était ce groupe-là, Ministère Amer, etc. Ouais. Et d'un coup, on a envie aussi de... On n'est pas juste là pour passer en radio et tout. Si on doit passer en radio, on veut laisser des choses. Ça veut dire que moi, personnellement, par exemple, c'est aussi grâce à des projets comme ça que j'ai pu aussi aller découvrir la musique, par exemple, congolaise que ma mère écoutait, qu'elle ne me faisait pas forcément écouter. Faut dire que ces gens-là ont ouvert des voies et des portes vers des musiques qu'eux-mêmes écoutaient quand ils étaient petits, tu vois.
Mais
en faisant des tubes.
Mais c'est pour ça que je posais la question de complexe, de complexer, décomplexer, parce que moi, ce que j'ai longtemps reproché au rap français, on a tout reproché au rap français, tout et son contraire, moi, ce que j'ai reproché au rap français, c'est d'aller puiser des samples, d'aller faire des reprises d'un patrimoine culturel français que je trouve... musicalement pas ouf, des trucs pas foufou, très franchouillards, tout en ayant un mépris pour ce qu'ils allaient qualifier de Zumba, alors que c'était la musique de leurs parents et que c'était culturellement méga riche. Et je parle pas que des Antillais, je parle des Congolais, des Sénégalais, etc. Ouais.
Mais après ça, c'est vrai que tu te rends compte que quand tu grandis en Hexagone, et c'est pour ça qu'en fait l'article, peut-être qu'il y a des personnes qui ont grandi, vécu aux Antilles, qui vont se dire « ouais, mais ça on le sait déjà ». Oui, mais en fait, il faut pas se mentir. En grandissant ici... On n'a pas le même impact, on n'a pas le même contact avec les musiques de nos parents. Parfois, ils les transmettent, parfois pas. Et en fait, il y a aussi toujours cette question de la validation et de ce qu'on entend à la radio. C'est-à-dire que on est peut-être plus enclin à aimer Johnny, j'exagère à peine, ou avoir été bercé par Johnny et Sardou,
on nous a reproché de
ne
pas être sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées pour la mort de Johnny.
Ah ouais?
Ouais, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de noirs.
Non, mais pas nous personnellement.
Non, mais pas nous.
Ils sont où les gens de cité? Je suis
non, mais alors que bon, en plus, on savait que ça allait durer quand même des plombes. Mais enfin, voilà, on a peut-être plus. Même par exemple, quelqu'un comme Booba, il a repris. On entend du Brigitte Bardot, on entend du Gainsbourg,
du Renaud.
On entend du Sardou, du Renaud, Mistral gagnant, c'est la revendication suprême. Ouais. Et c'est vrai que ça arrivait tard. Et je pense qu'un projet comme le Bissot, qui arrivait donc 10 ans après la formulation et ce moment où Kassav cartonne, ou même Wyclef Jean, je sais pas, mais Carnival, ouais, l'album Carnival, il y a Jacob Desvarieux sur un titre incroyable où en fait ils sont ensemble et musicalement, je suis désolée que et ça reste, je sais pas, l'album il a 23 ans maintenant, ça reste un monument en fait, c'est tout, un mais classique.
Je trouve, alors après c'est ma propre perception, j'ai pas envie qu'on me retire ma carte d'antillais si je dis une connerie, mais j'ai quand même l'impression que les connexions diasporiques en fait dont tu parles, j'ai l'impression qu'aux Antilles on les connaît pas toujours bien.
Non plus.
Par exemple, j'ai découvert extrêmement tard l'existence de l'afrozouk. Genre je sais très bien que le zouk a infusé des musiques africaines et vice versa, mais par exemple je savais pas qu'il y avait des gens sur le continent qui faisaient du genre du zouk. Genre par exemple j'ai découvert très récemment l'existence de Olivier Ngoma. Et c'est marrant parce que quand c'est un Gabonais qui a vu Cassav en concert du coup dans les années 80, le gars il est genre 25 ans, il a été matrixé par Cassav et il s'est mis à faire du zouk, c'est devenu une des plus grandes stars de l'afro zouk avec un tube, des tubes comme Bané. Et quand j'écoute ça moi en tant que simple antillais, c'est incroyable à quel point c'est la pureté en fait du truc, à quel point c'est vraiment du zouk, tu vois, by the book quoi. Monique Seka, Okamandoudou, Okamanyambe. Je le fais très mal. Quand j'étais petit, je croyais que c'était une antillaise en fait, Monique Seka. Je savais pas que c'était une africaine parce que pour moi c'était pas possible en fait. Pour sortir un peu du zouk, à l'ancienne vraiment, Negmaron. Vous voyez Negmaron, le bilan, tout ça. À la base, ils étaient trois, vous savez.
Il y avait Jamatic.
Voilà, il y avait donc Jackie, Benji et Jamatic. Et ils avaient un tube de raga qui passait en Martinique, en Guadeloupe, qui s'appelait l'argent dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Les gars ils faisaient du raga, ils chantaient en français, ça passait en Martinique, pour moi c'était les Antilles, ces gars là quand j'ai découvert c'était des Capverdiens, j'étais sous le choc. Et évidemment après les gars ils ont commencé à travailler plus tard, bien plus tard, avec Bissot la Bissot. Donc
congolais, en tout cas l'un d'eux, c'est Benji qui est congolais.
Ah, je crois qu'il était Capverdien.
Non, c'est Jackie qui est Capverdien. D'accord. Et Benji.
Tu sais pourquoi je dis ça? Je dis ça par rapport à leur album, la MC Malcriado.
Avec Stomy, avec
Mayra Andrade, etc. Et donc pour moi, c'était des Capverdiens. Ils n'arrêtent pas de me carotte, en fait. Donc bref, c'est la.
Enfin, l'un d'eux, en fait, du coup. Mais...
C'est la diaspora, quoi.
Mais non, mais en fait, c'est hyper intéressant aussi parce que ça dit, une fois de plus, à quel point cette musique, elle a marqué les gens et que, voilà, ils ont fait des tournées partout en Afrique, on parlait en Russie, etc. D'une part. Que c'est une musique qui n'est pas assez célébrée pour ce qu'elle a légué à une génération qui quand même lui rend hommage, mais dont on ne parle pas assez.
T'as entendu parler du musée du Zouk ?
Oui.
Le musée du Zouk
qui est
à Luanda.
En Angola, exactement. Exactement. Et justement, mais ça c'est aussi d'autres questions que l'article en fait, j'espère qu'il y aura plus d'articles sur toutes ces questions-là, mais par exemple, en parlant avec Claudie Sierre, que tout le monde connaît normalement, il disait aussi qu'est-ce que nous on fait pour institutionnaliser, nous en tant qu'antillais, moi je suis pas antillaise, mais pour institutionnaliser...
Tu peux venir avec
grand plaisir, parce que mais il y a beaucoup beaucoup de choses à en raconter. Mais lui disait qu'est-ce qu'on fait en fait, comment on institutionnalise aussi ce patrimoine en fait, qu'est-ce que nous aussi on fait, alors pas dans l'idée de il y a eux et il y a nous, mais dans l'idée que en fait aussi ce patrimoine il est malmené, il peut être invisibilisé, il est méprisé, mais qu'il y a aussi, et ça, la question en fait des pouvoirs publics, notamment qui sont aux Antilles, comment en fait on rend hommage en fait à cette culture qui, on le voit, a rayonné partout, jusqu'en Afrique, là où on manque pas de musique non plus.
D'où le musée du Zouk, qui a été ouvert en Angola et pas en France ou même aux Antilles.
Écoutez, les Guadeloupéens, c'était le Memorial Act sur l'esclavage ou le musée du Zouk, il fallait choisir.
Il y en a marre.
Il y a un projet, alors je sais pas si ça a ouvert. Mais en tout cas qui était bien avancé sous la présidence Hollande et qui s'appelle je crois la Cité de l'Outre-mer, qui doit se positionner je crois que c'était vers la Villette, donc avec l'idée de savoir qu'est-ce qui allait se passer justement
mais
pour,
on attend toujours ça alors
en fait je pense qu'avec en plus le Covid et tout ça a mis un point d'arrêt, mais en tout cas quelle place en fait aussi on donne à cette musique en tant que qu'elle a ouvert quand même une page, une nouvelle page culturelle, politique, sociétale, enfin tout ce qu'on veut, qui s'est pas refermée depuis, depuis un peu plus de, ouais, environ 40 ans quand même. Mmh. C'est hyper...
Je voulais arriver à, on arrive tout doucement à la fin. Dans ton article, tu parles de Nestlé.
Oui.
Et en fait, moi, j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit, ces 5-10 dernières années, j'ai pas écouté beaucoup de nouveautés. Et donc, j'ai écouté son album qui vient de sortir, Que Zou. Ouais. Et il y a un moment, un morceau qui m'a beaucoup fait plaisir, le morceau qui s'appelle La Tchatch.
Ouais.
Qui, même si c'est pas du tout la même thématique, c'est l'air, on dirait aujourd'hui, la top line d'un classique, en fait, de la musique congolaise, Indépendance Tchatcha, de Grand Calais, et qui est passé, en fait, par une reprise. Moi, j'ai découvert par une reprise par Balogi, auditeur du chip, rappeur congolais belge. Et c'est super intéressant parce qu'en plus, dans son identité, Nestlé, elle est égyptienne, martiniquaise, guyanaise, star du zouk, mais implantée ici. Enfin, c'est vraiment, ça montre bien en fait cette espèce d'Atlantique noir, j'ai envie de dire, qui dialogue, etc. Et c'est super cool, quoi.
Oui, et puis alors c'est vrai que ça, on l'a pas forcément, mais c'est vrai que l'article, on m'a dit aussi, il y a beaucoup de femmes. Alors après, moi, c'est un peu mon prisme. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est dans cette génération qui peut être basée ici ou qui est née là-bas mais qui se relocalise ici. Enfin, il y a tellement de parcours et en fait, ce serait dommage aussi de figer. Ouais. Donc, la question aussi de l'identité de cette musique, de la figer comme on aurait figé par exemple le reggae. J'en parlais avant de venir ici, mais quand on considère ce qu'on appelle la naissance de l'afrobeat, vraiment la musique telle que Fela Kuti l'aurait popularisée, c'est pas né au Nigeria purement. Il y a eu un passage par Londres où il faisait quand même de la pop, quelque chose d'assez, voilà, de l'air du temps. Et puis c'est ensuite, il y a eu l'éveil au contact des Afro-Américains quand il était à Los Angeles. Et en revenant, sachant qu'en plus il avait une mère qui était militante, tout ça a donné lieu à la création de cette musique. Donc tu parles d'Atlantique Noir, mais c'est réel. Outre la position des Antilles de manière très géographique, il y a, et Dieu merci, et voilà, la question de la pureté de cette musique, elle se pose difficilement parce que c'est déjà un carrefour, c'est déjà un creuset. Et c'est de là, je ne vais pas faire genre...
C'est déjà une musique...
Non, c'est que ça fait un peu ça, mais c'est pour dire que c'est déjà des musiques qui pourraient devenir... Elles sont sédimentées dans plein d'endroits. C'est pas vrai que c'était, on était là, on jouait du coca et d'un coup ça s'est transformé en zouk. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est important de rappeler. Mais par contre, c'est une musique profondément antillaise. Et la preuve, c'est qu'en France hexagonale, les gens sont là, c'est quoi?
C'est le truc de moi, car
tu vois. Donc c'est aussi ça. C'est comment en fait et après qu'il y a des gens qui se l'approprient parce que ça fait partie de leur identité. Tu es antillaise, mais tu as grandi ici. En fait, tu peux faire cette musique et les gens peuvent te couronner. Mais tout comme, par exemple, moi, j'ai été surprise de voir qu'Aya Nakamura, elle avait été programmée au festival du Zouk de La Réunion.
Ouais, c'est mentionné aussi dans ton article.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où, en fait, on lui dit « Ok, tu rends suffisamment hommage à cette musique pour qu'on puisse te programmer, il n'y a pas de souci. »
Et puis, il serait bien bête, s'ils peuvent l'inviter, tu vois ce que je veux dire, il serait bien bête de ne pas le faire.
Et puis, parce qu'à La Réunion, est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de se dire que, voilà, une des nouvelles formes, en fait, de cette musique peut être incarnée par quelqu'un comme Aya Nakamura, qui vend, qui plaît, qui marche.
Bien sûr.
Et que donc, on l'a, voilà. C'est ce qui, moi, je trouve est intéressant. Et ça m'a excité de travailler sur cet article, parce qu'à chaque fois, je découvrais plein de trucs. Et il y a encore plein de trucs. J'espère que je vais pouvoir continuer d'écrire dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette musique. Je ne prétends pas du tout prendre la place de ça. Je sais qu'il y a des... C'est après l'article. C'est quand tu es dans ton article, tu cherches déjà à voir les gens. Il n'y a pas le même fuseau horaire, donc il faut contacter les gens, etc. Mais une fois que après, ça y est, j'avais rendu ma copie, enfin, j'en ai rendu plusieurs en plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait une littérature.
Est-ce que tu aurais justement, pour ceux qui veulent creuser un peu plus, est-ce que tu aurais une recommandation accessible?
Une recommandation accessible qu'on m'a envoyée hier, c'est un podcast qui s'appelle Zouk Vintage, qui est animé par Marie-Julie Chalut.
Il y a un truc aussi, je crois, il y a un compte Instagram, si je dis pas de bêtises aussi.
C'est ça. Ouais. Donc, on m'en a parlé hier. Moi, je n'avais pas du tout. Et donc, c'est elle interview une personne qui, en fait, un chercheur qui a a été l'un des premiers en fait à faire un colloque, enfin il a participé à un colloque et aussi donc je vous dis ça, j'ai écouté ça hier en me disant ok c'est intéressant, j'avais pas entendu parler de ça, mais Zouk Vintage en fait pour ceux qui aiment cette musique, puisque du coup ça lui redonne aussi un peu son lustre et son sérieux, ça manque vraiment en fait.
Mais bon c'est quoi ton son préféré Zouk, vas-y balance, ou ton top 3, ton top 1, allez top 1.
Mon top 1, franchement, et en fait, vous allez, on va se moquer de moi, mais moi...
Francky Vincent.
Non, pas Francky Vincent, mais je vous jure que, bah, par exemple, Ancré à ton port, c'est un titre...
C'est un banger.
C'est toujours frais. Franchement, c'est abusé. Et franchement, je vais vous dire, mais moi, Sly, à chaque fois, je le réécoute...
Ah, je flamme.
Mais oui.
Comme une flamme.
Moi, franchement...
Après, ce morceau-là, il est sorti, mais 8 ans avant en Martinique.
De n'importe 8 quoi. 8
ans. Enfin, il est sorti. Je suis vieux et je l'écoutais au lycée en Martinique, frère.
Il est sorti en 2002. Aux Antilles en 2004 en France.
Il est sorti en 2000. Il est sorti en 2000-2001.
2000 si tu veux. Ça fait 2-3 ans.
Ça fait 8 ça.
Par rapport à la.
Premier Gaou aussi. Il est sorti la même année que. Je vais te dire un truc. Premier Gaou, il est sorti 2 ans avant aux Antilles par rapport à la France. Et il est sorti en même temps que ça.
Parce qu'il y a ce truc-là aussi de la cassette.
Ouais. Vous aviez les avant-premières
Les autres, ils les veulent pas.
C'est quand même
il faut d'abord, à l'époque, pour qu'il arrive ici, il fallait d'abord faire un clip ici, le machin par les radios, etc. Ça prenait...
Et là, il y a la cassette de « Tu partais ». Moi, toutes mes copines, c'était ça.
Tu partais en vacances.
Tu pars en vacances, tu récupères la cassette, et c'est comme ça que ça se diffusait.
J'avais ça pour
les cassettes aussi, pour les cassettes dans les années 90, quand j'habitais ici, gamin, on avait aussi les cassettes de trucs de ragga, dancehall, machin, enregistrés par ma sœur.
Non, mais tu te sentais... nous on se sentait, moi franchement le cadre vachement ça a été la radio en fait. Est-ce que les gens écoutaient tu vois quand après c'était pas du zouk mais quand Admiralty est sorti,
bien sûr
tu sais, on était là, moi je savais pas danser tout ça et tout, il y avait les après-midi mais j'avais pas le droit d'aller, mais les gens ils allaient, enfin tu sais c'était tout un monde où je me disais waouh. Mais nous, on était là, genre, avec le rap et WeFM, quoi.
Ouais.
Voilà, on était bloqués. Donc, et après, je ne sais pas si on considère que c'est du zouk, mais il y a un titre que j'adore. J'avoue, c'est le titre d'X-Man, Allô. J'adore ce titre. Il est récent. Mais en gros, en plus, c'est vraiment coucou le machisme. C'est-à-dire, il dit ouais, en fait, tes copines, elles racontent des trucs sur moi et tout, c'est pas bien.
Faut pas les écouter.
Elles veulent que tu me lâches, elles veulent savoir d'où vient mon argent et tout. Mais ce titre, il me rend ouf. Je ne sais pas, à chaque fois que je l'écoute, je suis là, je me mets en poule. Non, ça va pas du tout, mais je l'adore.
François, toi, t'as un morceau ?
Moi j'ai trop.
Non mais ton top 1 du coup.
Top 1.
Ouais.
Franchement, ça va jouer entre. Je pense que ça va être. Comment il s'appelle Harry Diboula. Franchement, Harry Diboula, tu me manques.
Ou Camante chez moi.
Je pense que c'est vraiment. C'est... Dès que j'entends le saxophone au début là, tintin, comme ça, je commence à. Je réponds plus de rien.
Il y a un morceau où tu réponds plus de rien.
En fait, moi, ma mère écoutait beaucoup de zouk quand j'étais enfant. Okay. Donc c'est vraiment pareil, une musique qui était vraiment présente dans mon foyer, dans mon enfance et tout. Mais pareil, je pense qu'il y a un truc où je m'en suis détachée assez rapidement. Je pense que j'ai été victime, effectivement, du truc de « Ah, mais non, mais en fait, c'est un truc... »
Pas de nier ici.
Vas-y, écoute Noir Désir, c'est beaucoup mieux.
Il y a Noir dedans, en plus. Qu'est-ce que tu demandes?
Franchement, ici, en Hexagone, faut être réel. Hein. Ça, c'est pas, c'est, malheureusement, on a subi ça.
Ouais, c'est... Ouais.
Le côté où c'était moins bien vu d'écouter ça que d'écouter...
Pendant longtemps, quand j'étais en France... j'écoutais pas de zouk, j'étais pas dans le mood, tu vois. Quand je rentrais, tu vois, tout l'été, je rentrais, j'écoutais du zouk.
De l'été,
tu sais, je rentrais aux Antilles. Du coup,
t'es dans le bain, t'es dans le bain.
Je me mettais à l'âge, j'étais en bain, etc. Mais ça m'a pris des années de me remettre à écouter du zouk ici.
Mais du coup, Fanny G en
créa
ton
port. Fanny G en
créa
ton
port. Contre toi et moi, un jour ça va coller.
Mais même Pearl Lama, elle était incroyable.
Pearl Lama, banger sur banger.
Alors moi, je.
Thierry Cam. Excusez-moi, je commence à se faire une playlist.
Tu n'es drop. Non, moi, je dirais, personne ne m'a demandé, mais si je devais dire mon top 1, je pense que ce serait Jocelyne Béroir, Sakitala. Parce que déjà de 1, ça commence presque par un poème, c'est trop beau. Et puis en plus, c'est vraiment une meuf qui parle à son mec et qui lui dit quand t'es avec moi, sois un peu discret, quoi. Sois un peu discret sur ce que tu mates, ce que tu fais, etc. Et je trouve que ça, c'est tellement bien amené. La musique est magnifique. Elle a une voix de génie. Et puis sinon, ouais, tout Tania Saint-Val, tout, enfin, plein.
Est-ce que tu sais faire le je t'aime de Ancré à ton port? Mais ça varie un peu.
Moi j'aime bien. Elle a fait le remix. Il y avait le remix masculin aussi avec Marvin. Warren. C'est Warren. Son... Et lui aussi, là, le je t'aime de Warren, il est lourd. Il est
non,
lourd.
Mais franchement, il est lourd. Faut que les gens ils arrêtent de penser que ça c'est.
Et est-ce que excusez-moi là je suis parti mais est-ce que il y a pas longtemps j'ai réécouté un vieux son de 2007 les DS.
Pour le coup, ça intègre le truc de la séparation géographique, de on va vivre, on quitte notre île, etc. Exactement. Ça change, c'est dur, mais on se souvient. Enfin, il y a tout dedans.
Relatable, mon pote.
Mais ouais.
Non, mais franchement, tu vois, et en fait, c'est connecté à trop de choses, en fait, les uns pour les uns et les autres. C'était pas forcément, c'est pas parce que ça parle d'amour que forcément ça va te rappeler. Il y a aussi une vibe, un truc qui peut parfois être mélancolique ou parfois c'est juste, vas-y, on fait la fête, mais en vrai ça la qualité intrinsèque des voix, enfin la voix de Père Lama, je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent considérer que elle a une des plus belles voix en fait de la musique française. Faut juste le dire, on dirait que ça fait mal à la bouche aux gens de dire tu mets elle et tu mets toutes les autres là à côté. Franchement, il n'y avait pas photo. Et en fait, c'est même presque incompréhensible qu'on ait jamais osé. Limite, c'est presque comme si c'était trop bien pour qu'on puisse.
C'est le côté, tu vois. Il y a périphérique. Ouais. On est à la périphérie, les Antilles, en fait.
Ouais. On pourrait refaire une heure en plus. Mais en tout cas, Dolores, merci beaucoup pour ta disponibilité.
Ton savoir,
tes lumières. Allez lire cet article qui s'appelle C'est quoi ce zouk? Qu'est-ce que c'est que ce zouk?
De solidarisation totale, mais on a l'idée.
Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi une émission qui est sortie il y a quelques années. C'est un podcast en plusieurs épisodes de France Culture sur l'histoire parallèle de la pop française. Et le premier épisode, c'est sur le zouk. Et c'est assez bien fait pour du contenu hexagonal. Mais en tout cas voilà, merci.
Franchement, cet épisode il a donné envie de faire une playlist et tout.
Il y aura peut-être une playlist. Est-ce qu'on se lancerait pas dans ça? On en reparle, on vous dira en temps et en heure. Oui, François, tu voulais dire un truc?
Rien du tout, j'allais encore chanter. C'est tout.
C'était le chip. On revient très vite dans une semaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram. At le chip podcast. Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Mais bien sûr, si vous nous regardez sur YouTube, qu'est-ce que vous faites?
Abonnement.
Et activer la cloche.
Commentaire.
Tout ça. Et partage, tout, pouce en haut. Cette émission a été réalisée par Adrien chez Aldric. Studio Majorel. Et Aldric, on lui fait aussi un bisou. Yes.
De quoi on parle la prochaine fois? Est-ce qu'on peut faire du teasing ou pas? Est-ce qu'on commence à faire ça ou pas?
On va parler de... Moi, j'aimerais bien qu'on reste sur le domaine de la danse et de la musique et de la soirée.
Donc c'est un live, on danse.
Non, c'est pas ça.
Non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Bisous.
Des bisous.
Bisous, bisous. Bye bye.
Les chanteurs. La chanson.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.